Et nous allons poursuivre avec vous cette conversation, Adrien Goetz, sur Notre-Dame de Paris. Mais avant cela, c'est le moment, comme chaque jour, d'En compagnie des revues. Avec vous, Laurent Jean-Pierre, vous nous faites le plaisir de passer nous voir pour nous parler de votre revue. La revue critique, une question rituelle. Êtes-vous un lecteur de Victor Hugo, pour commencer?
Oui, ben, comme beaucoup de jeunes gens, je crois que j'ai lu la poésie d'Hugo pendant longtemps. J'ai été évidemment habité par sa mythologie romanesque, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus le Hugo essayiste, le Hugo témoin et acteur de l'histoire.
Voilà, ben on est en plein dedans quand même dans le Hugo essayiste.
93, histoire d'un crime, le Hugo, disons d'après, le Hugo plus radical politiquement peut-être, et également le Hugo exilé. À l'écart des fureurs de l'histoire, mais en même temps très 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 acéré sur justement les événements de son temps.
Alors, vous n'êtes pas venu pour nous parler de Victor Hugo, mais de Michel Perrault, qui s'intéresse au XIXe siècle. Il y a quand même un lien. Michel Perrault, qui est à l'honneur de la dernière livraison de la revue Critique.
Oui, Mathieu, après avoir dédié un numéro de la revue il y a un an exactement à Mona Ozouf, qui fut une collègue de Michel Perrault à Caen et une amie depuis lors, la revue a souhaité réunir une douzaine d'auteurs, en plus de Michel Perrault elle-même, afin de revenir sur le travail de cette spécialiste mondialement reconnue de l'histoire ouvrière et de l'histoire des femmes, dont le parcours est emblématique de nombre des innovations de l'historiographie française depuis un demi-siècle.
Et de quoi en particulier diriez-vous qu'elle est emblématique ?
Eh bien, la magistrale thèse d'état de l'historienne, parue en 1974, portait sur l'histoire de la grève ouvrière entre 1871 et 1890. Effectuée sous la direction d'Ernest Labrousse, qui défendait alors une histoire quantitative, avant tout économique et sociale, cette recherche débouchait pourtant sur l'évocation nécessaire des paroles et des vies ouvrières. Michel Perrault s'est attaché par la suite à faire systématiquement entendre la voix des oubliés ou des marginaux de l'histoire, ouvriers, femmes, prisonniers, entre autres. Après avoir imposé en France l'histoire des femmes dans les années 80, elle a fait du privé, de l'intérieur, de l'intimité, des objets nouveaux d'enquête historique, comme le rappelle dans ce numéro André Burguière. Dans l'un de ses derniers livres, « Mélancolie ouvrière », paru en 2012, elle a cherché à raconter la vie d'une de ses quasi-inconnues, Lucie Beau, une tisseuse en soierie, s'intéressant à son tour à une vie anonyme, singulière, reconstruite grâce à l'imaginaire, un type de vie qui concentre aussi l'attention de certains écrivains d'aujourd'hui, je pense à Jean Echenoz ou à Pierre Michon. Cette vie de Lucie Beau vient d'ailleurs d'être adaptée par Gérard Mordilla dans un film qui sera diffusé cet automne sur Arte.
Et alors la littérature, comment diriez-vous, Laurent, qu'elle se donne à voir dans l'œuvre de Michel Perrault et en particulier peut-être la littérature du 19e dont on parle aujourd'hui avec Victor Hugo?
Elle est centrale, mais à ses frontières. John Scott, historienne des femmes et du monde ouvrier, elle aussi, l'explique dans l'article d'ouverture de ce numéro. Elle dit « La vraie passion de Michel Perrault, c'est le langage. » À la fin des ouvriers en grève, elle suggérait que l'insurrection du verbe, dans les champs ouvriers par exemple, n'était peut-être que le revers d'une pacification des protestations. Elle écrivait « Le masque trompeur de la soumission des hommes ». Judith Lyon-Camp montre que l'œuvre de l'historienne est tentée par la littérature, la fiction, souvent plus vraie que l'histoire, comme dit Perrault, parce que moins gouvernée, autorisant aussi à dire le privé et surtout l'intime, dit-elle encore, ressort secret de l'action publique. Balzac, Flaubert, Zola, Proust et tous les grands romanciers du réel du XIXe siècle sont donc mobilisés par une œuvre qui en fait des observateurs privilégiés de la famille, de ses rapports de pouvoir, plutôt que de la société et de ses tensions. La littérature, bannie par Labrousse et sa vision scientifique de l'histoire, est devenue peu à peu un matériau central pour l'historienne. Elle s'est aussi imposée très tôt comme l'horizon de son écriture. En 2014, le prix Simone de Beauvoir lui est d'ailleurs attribué pour, je cite, « l'exceptionnelle qualité littéraire de ses textes ».
Et enfin, quelle image de l'histoire ressort de ce parcours parmi tous ces auteurs ?
Celle d'une histoire non pas rédemptrice, comme elle s'en défend vigoureusement dans l'entretien qu'elle nous a accordé, mais l'image d'une histoire malgré tout porteuse d'espoir. À l'instar des ouvrières et des ouvriers ayant connu l'échec des lendemains de grève, l'historienne d'un monde ouvrier aujourd'hui mis à mal a certainement investi le passé d'espoir déçu pour y puiser de nouvelles raisons d'envisager l'avenir.
Merci Laurent Jean-Pierre et je signale qu'une rencontre publique aura lieu aujourd'hui même à 19h à la librairie Compagnie, c'est 58 rue des Écoles à Paris dans le 5e arrondissement, avec Michel Perrault et plusieurs auteurs du numéro de critique d'août-septembre 2017 intitulé donc, je le rappelle, Michel Perrault, l'histoire ouverte. À bientôt Laurent.